Michel Marion, bonjour.
Bonjour.
Le scrutin législatif de demain se déroule dans un contexte particulier en Arménie. Nicole Pachinian joue sa réélection. On voit dans votre livre « L'Arménie et les Arméniens, les clés d'une survie » que son accession au pouvoir en 2018 s'est traduite par un renouveau pour le pays, émergence d'une nouvelle génération accédant au pouvoir, lutte contre la corruption. Mais la défaite au Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan en novembre dernier, ainsi que la pandémie, ont constitué un coup d'arrêt à cette période que vous qualifiez dans votre livre d'euphorie trompeuse.
Euphorie d'abord, parce que l'élection de Nicole Pachinian par le Parlement qui sanctionnait la victoire du mouvement populaire qu'il avait porté, donnait cette espérance de sortir, disons, du post-soviétisme avec tout ce qui l'avait caractérisé dans tous les pays de cet espace, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire la perpétuation des élites, la démocratie en trompe-l'œil.
L'absence d'alternance.
Et donc, d'une certaine façon, plus que la démobilisation, la résignation. Le sentiment d'une fatalité qui ressemblait par bien des côtés à la vie sous l'Union soviétique. En Arménie, tous ces éléments de contexte-là étaient, au moins au début, accentués par l'existence d'un état de non-guerre, non-paix avec le voisin azerbaïdjanais et de très lourds contentieux historiques avec le voisin turc. Et tout ça a été, au moment du mouvement populaire de 2018, non pas aboli, mais mis entre parenthèses par à la fois l'espérance que représentait Pachinian et le fait qu'il mobilisait toute une série d'autres éléments, eux, positifs pour l'Arménie. D'abord le fait qu'il y avait une jeunesse, que toute la jeunesse n'était pas, contrairement à l'image qu'on en avait, partis émigrés en Russie ou à l'Ouest, qu'il y avait des compétences qui étaient parmi les plus porteurs d'avenir, c'est-à-dire l'agroalimentaire, c'est-à-dire la high-tech informatique et le tourisme patrimonial. Donc beaucoup d'éléments qui donnaient à l'Arménie l'espoir d'une forme de désenclavement. Donc désenclavement, c'est une forme de d'émancipation aussi par rapport à la priorité donnée aux affaires stratégiques et militaire. Et cela, il ne faut pas dire que c'est une façade ou un trompe-l'œil, ça a marché pendant deux ans et demi, au regard des indices internationaux.
Notamment sur la corruption.
Sur la corruption, c'est Transparency International. Et puis, il y avait les élections de 2018 donc, qui ont succédé 6 mois après au mouvement populaire et validé la prise de pouvoir par Pachinian. Ces élections ont été considérées pour la première fois comme acceptables sans réserve par, je crois que c'est l'OSCE. Et puis les agences de notation économique. Enfin, l'ensemble des observateurs internationaux corroboraient le bien fondé de... non seulement la stratégie de Pachinian, mais son effet mobilisateur. Mais, tout cela a été rattrapé par un rappel aux conditions très précaires qui sont celles de la coexistence avec le voisinage, qui sont les conditions tragiques un peu de l'Arménie.
Quand vous parlez dans votre titre « Les clés d'une survie », le dernier conflit, donc en novembre dernier, a ranimé le sentiment de fragilité.
Oui, bien sûr, il a rappelé la vulnérabilité arménienne. Cette vulnérabilité, elle est liée au fait qu'effectivement l'Arménie est dans une relation conflictuelle avec un Azerbaïdjan qui est 3 fois plus peuplé, beaucoup plus riche du fait de son pétrole et qui est appuyé sur une Turquie qui, elle, est alors pas 3 fois, mais 30 fois plus nombreuse et plus étendue que l'Arménie et qui est dans une position d'hostilité. Bon, officiellement, parce que l'Arménie occupait une partie du Karabakh qu'elle considérait, elle, la Turquie, comme azerbaïdjanais, et en réalité, surtout parce que l'Arménie rappelle au monde qu'il y a eu ce génocide structurant pour tous les Arméniens commis en 1915, que la Turquie refuse de le reconnaître, mais qu'elle sait en même temps à quel point ce refus nuit à son image. Donc elle se considère comme l'ennemi de l'Arménie. Rappeler, comme l'ont fait la Turquie et l'Azerbaïdjan à l'Arménie, à quel point elle est petite, limitée, ça n'a été possible que parce que la Russie, qui jusque-là était l'allié plutôt de l'Arménie a laissé faire pendant 4 semaines, 44 jours exactement, jusqu'au moment où elle s'est interposée. Donc le rapport de force était plus déséquilibré, accentuait la fragilité de l'Arménie. L'Arménie s'est retrouvée dans cette situation de solitude, mais ce sentiment de solitude est un peu trompeur parce que désormais, on peut dire que même si l'Arménie a perdu à la suite de cette guerre un tiers du Karabakh, le Karabakh est sur la carte maintenant des diplomates et les Occidentaux qui sont toujours à l'affût de moyens quand même d'exercer une contre-pression par rapport à Poutine, ont maintenant ça à l'esprit. Les deux éléments dans cette campagne électorale, le fait que Macron et reçu Pachinian pendant la campagne électorale arménienne, c'est quand même une forme de soutien. Et le fait que Biden, avec les Géorgiens, ait patronné un accord où les Azerbaïdjanais rendaient un certain nombre de prisonniers, parce qu'ils en ont gardé une centaine comme gage, ce qui évidemment non seulement irrite, mais irrite comme une plaie terrible les Arméniens. Un accord a été trouvé pour la restitution d'une quinzaine de prisonniers en échange de la livraison d'un plan de minage de la frontière par les Arméniens. Eh bien là, cet accord, Poutine n'y a rien vu. Ce sont les Américains, par l'intermédiaire des Géorgiens, qui l'ont patronné. Ce qui veut dire que les Américains essayent de revenir sur le terrain.
Et Joe Biden, d'ailleurs, a aussi reconnu le génocide arménien.
Ils se sont donné les moyens, ces Américains, de même que les Français, d'être extrêmement populaires en Arménie. Les Américains par la déclaration de Biden, les Français par le fait que Macron a été le seul, au moment de la guerre, à désigner l'agression azerbaïdjanaise et qu'il a soutenu dans la période récente les demandes très fortes des Arméniens pour récupérer leurs prisonniers.
Alors, vous disiez tout à l'heure que le gouvernement turc continuait de nier le génocide. Dans votre livre, vous faites état de sondages en Turquie qui montrent que la question ne semble plus taboue pour la population turque. Et vous nous parlez aussi particulièrement d'une ONG qui s'est donnée pour mission de rapprocher des descendants du génocide avec des descendants de leurs sauveteurs en Turquie.
Ce thème des justes est extrêmement important. Parce que bon, pendant longtemps, il a été totalement ignoré, parce que pour les Arméniens, les pertes avaient été si lourdes et l'absence d'opposition en Turquie, malgré le changement des régimes, à cette façon de consentir à l'anéantissement arménien, tout ça faisait que l'action des justes était totalement ignoré. Et puis les choses ont changé depuis une quinzaine d'années. On a commencé à retracer des itinéraires individuels. On s'est rendu compte d'abord de cette évidence, c'est que pour que des gens aient pu être sauvés, il fallait qu'il y ait des sauveteurs. On ne pouvait pas se sauver tout seul dans des conditions de désert ou telles que c'était le contexte du génocide arménien, de la déportation. Et on a commencé à retrouver effectivement dans les annales, notamment des administrateurs qui s'étaient opposés aux ordres qu'ils avaient reçus, et puis dans les légendes, dans les souvenirs familiaux, des voisins. Et puis, on a commencé en Arménie à vouloir effectivement s'acquitter de cette dette morale en allant rechercher des individus qui, quelquefois, avaient payé de leur vie. Alors, pas tous, mais quelques-uns avaient payé de leur vie leur engagement. Et c'est un thème qui est extrêmement important, les justes, aussi parce que la Turquie ne reconnaît pas le génocide. On n'aidera pas dans les diasporas turques l'acquiescement à cette reconnaissance internationale qui, elle, est arrivée, si on n'a pas d'autres modèles positifs, éthiques, à mettre en avant face aux bourreaux qu'ont été les membres du gouvernement turc de l'époque.
Qui dit génocide dit exil, constitution de diaspora. Alors, l'Arménie est un rare pays où, effectivement, la diaspora est beaucoup plus importante que la population dans le pays, hein, 2 à 3 fois plus. Et vous nous parlez d'une diaspora dans votre livre en Californie, donc sur l'océan Pacifique.
Oui, aux États-Unis, ils sont arrivés dans les années 1860-70, au début dans les régions de l'Est, et puis il y a eu un appel irrésistible, un peu, donc ça veut dire qu'ils se sont américanisés très vite, puisqu'ils ont fait comme les Américains, un appel irrésistible
vers la
Californie. Mais pas tellement la ruée vers l'or, mais la possibilité de faire revivre des campagnes. C'est-à-dire qu'au moment où, dans l'Empire ottoman, les conditions de coexistence avec le voisinage, c'est-à-dire les Kurdes encouragés par le sultan, c'est-à-dire les Tcherkesses réinstallés après leur défaite contre les Russes. Tout ça rendait la paysannerie arménienne beaucoup plus fragile, vulnérable qu'elle ne l'avait été. Eh bien, ce rêve de l'agriculture a été transplanté, notamment dans une ville qui est devenue un peu légendaire pour les Arméniens, qui est la ville de Fresno. On a gardé les noms de ceux qui ont introduit la culture de la figue, la vigne, etc., etc. Ça a été la première étape. Mmh. Et puis ensuite, évidemment, la Californie, c'est tout le reste, c'est-à-dire c'est l'automobile, c'est Hollywood, au point que il y a toujours une sorte de figure dans les communautés arméniennes à travers le monde, une sorte de figure emblématique. Ça a longtemps été Charles Aznavour, et c'est devenu, après le décès de Charles Aznavour, Kim Kardashian, qui est un profil tout à fait différent.
Qu'est-ce qu'elle représente pour les Arméniens,
Kim Kardashian, elle représente, me semble-t-il, alors surtout pour les Arméniens d'Arménie, où elle a eu un énorme succès quand elle est allée au moment du centenaire du génocide, elle représente une forme de réussite incontestable, financière, mais c'est aussi quelqu'un qui a une famille totalement aux antipodes de la famille traditionnelle, mais cette famille totalement aux antipodes est une famille qui reprend le contact avec le pays des racines. Et ça émeut énormément les Arméniens de là-bas, à la fois parce qu'elle leur donne de tendresse affichée, mais également de ce qu'elle propose comme vie libérée.
Merci Michel Marian.
Merci Sylvie Noël.